Bonjour. Ce que je vais faire, puisque j'ai préparé un texte écrit et que le texte, je pense que ça, les documents seront publiés en temps et lieu, je vais passer très, très rapidement sur la première partie du texte où je parlais finalement de la question là, de la situation qui est propre aux juristes bilingues canadiens. Évidemment, la plupart des Canadiens qui sont dans la salle sont très au courant finalement de la situation, les difficultés pour un juriste bilingue qui travaille au Québec, par exemple, et qui doit répondre aux besoins de ses clients en français et en anglais. La même chose pour les juristes bilingues qui se retrouvent ailleurs au Canada, dans le ROC, le Rest of Canada, et qui sont aussi appelés de temps à autre à répondre aux besoins de leurs clients en français et en anglais. Je parle aussi un tout petit peu là, de ce qu'on a vécu, ce que moi et mes collègues ont vécu depuis 1980 en ce qui concerne l'enseignement et la publication dans le domaine de la common law en français. Évidemment, la plupart des jurylinguistes canadiens dans la salle, je pense, sont très au courant de cette situation-là. Si j'avais rédigé cette première partie, c'était surtout à l'attention des jurylinguistes européens, parce que vous êtes peut-être un peu moins au courant de la situation. Et j'ai également ajouté à la fin de mon texte une bibliographie sommaire, encore une fois à l'attention des jurylinguistes européens, hein, qui désirent approfondir leur connaissance de la situation qui existe au Canada dans le domaine de la common law français et dans le domaine de la jurylinguistique. Alors, tout ça pour vous dire que je n'ai pas l'intention là, de m'attarder sur la première partie de mon texte. Vous pourrez y avoir accès en temps et lieu. Okay? J'estime que c'est plus important de commenter la présentation du professeur Godard. Et c'est ce que je vais faire. Je vais également tenter de faire ça assez rapidement parce que vous avez probablement des questions que vous voulez poser au professeur Godard. Alors, on va essayer de laisser un petit 5 ou 10 minutes à la fin, si c'est possible, pour vous permettre justement de poser des questions. Alors, je pense que surtout les jurylinguistes canadiens ont compris que tous les juristes bilingues canadiens, qu'ils aient une formation en droit civil ou en common law, ont recours à la jurylinguistique, mais souvent sans s'en rendre compte. On le fait en quelque sorte de façon vraiment inconsciente. Premièrement, le fait d'avoir une connaissance hors du commun, du français et de l'anglais, fait en sorte qu'on est déjà ouvert. On comprend déjà là, la problématique, si vous voulez. Ces juristes bilingues canadiens sont sensibilisés aux particularités et aux subtilités de la terminologie juridique dans les deux langues. Et là, je me limite là, uniquement aux juristes bilingues canadiens qui ont une formation uni-juridique. C'est-à-dire, ce sont des gens qui ont une formation soit en droit civil québécois ou en common law. Mais si ces juristes décident, et c'est quelque chose qui se produit de plus en plus souvent, je vous dirais, au Canada, si ces juristes décident de pousser plus loin, de relever un deuxième défi et de travailler dans une perspective de droit comparé, eh bien là, évidemment, ça vous le savez très très bien, tout à ce moment-là devient question de nuances, voire de divergences entre divers concepts juridiques. Alors, pour ces juristes bilingues, le processus débute donc, je l'ai dit tout à l'heure, presque de façon inconsciente au tout début de leur formation juridique. D'où l'importance, okay, comme le souligne le professeur Godard, okay, de bien faire comprendre très tôt aux étudiants en droit le rôle que joue la jury linguistique dans leur formation. Mais on sait très bien que dans l'état actuel de la formation juridique au Canada, ces juristes en herbe auront tout au plus un aperçu de ce domaine. Et ça, c'est très optimiste de dire qu'ils auront un aperçu. Plusieurs, et ça, le professeur Godard l'a bien dit, plusieurs, on ne leur en parle pas. On s'imagine que ça va de soi, que les gens vont comprendre une espèce de science infuse, si vous voulez, ce qui est faux. En général, ceux qui vont avoir finalement un aperçu de ce domaine vont le faire par le biais notamment de cours en rédaction ou traduction juridique, ou de cours en rédaction ou en traduction législative. À titre d'exemple, moi je donne un cours en rédaction juridique approfondie au sein du programme de Common Law en français à l'Université d'Ottawa. Il y a en général 12 ou 13 étudiants qui suivent le cours, alors que 60 étudiants sont admis au programme à chaque année. Et évidemment, c'est un cours qui est facultatif. Alors, c'est donc la raison pour laquelle je trouve qu'on doit accorder une grande importance à l'idée qui est prônée par le professeur Godard d'intégrer la jury linguistique au sein des facultés de droit. Évidemment, la question qui se pose tout de suite, c'est comment s'y prendre. C'est sûr que, des maîtrises, une maîtrise comme celle qui est offerte à Riga, qui est très innovatrice, ou des formations traditionnelles telles que des diplômes en traduction ou en rédaction législative, c'est une façon finalement de permettre à certains étudiants d'acquérir certaines compétences en la matière, mais seulement il y a seulement quelques heureux élus, si je peux utiliser cette expression-là. Et ce qu'on voudrait faire, idéalement, ce serait de rejoindre le plus grand nombre possible. Or, en réfléchissant à cette question-là, je me suis dit qu'il y a une piste qui pourrait s'avérer fort prometteuse. Je ne sais pas si, je pense qu'il y a plusieurs gens dans la salle qui sont peut-être pas encore vraiment au courant de cela, mais il existe actuellement au Canada la Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada, et cette fédération-là a mis en place, a créé un comité de mise en œuvre du diplôme de Common Law. Le comité a déposé son rapport final à la fédération au mois d'août, la semaine dernière en fait. Et dans mon texte, là, vous avez un lien direct au rapport qui est disponible en français et en anglais. Et ce qu'on va faire à partir de 2015, au Canada, dans les facultés de droit qui offrent une formation en common law, il va y avoir une exigence nationale relative au diplôme de common law. Or, dans le rapport final du Conseil, on se penche évidemment sur les tenants et les aboutissants de cette exigence nationale. Et voici ce qui est écrit dans le rapport final du Conseil. On indique que pour que les diplômés issus des facultés de droit qui sont touchés par le rapport, pour que ces diplômés-là puissent avoir accès au programme de formation offert par les barreaux, et donc pour qu'ils puissent avoir accès à la profession, ces diplômés-là vont devoir démontrer qu'ils ont des compétences minimales, donc des compétences dans certains domaines. Et une des compétences requises est la suivante. Alors là, je lis là, directement là, du rapport. On dit, le demandeur doit avoir démontré qu'il est capable de faire ce qui suit. Communiquer clairement en français ou en anglais. Déterminer l'objet de la communication proposée. Utiliser une langue dont la grammaire et l'orthographe sont correctes et qui convient à l'objet et à l'auditoire auquel la communication est destinée. Formuler et présenter efficacement un argument, une analyse, un conseil ou des présentations juridiques exactes et bien raisonnées. Bon, il s'agit selon moi d'un critère de compétence qui est assez rudimentaire, mais c'est un critère de compétence requis. Ce qui veut dire que à partir de 2015, les étudiants qui veulent avoir accès à la profession juridique vont devoir démontrer qu'ils ont acquis cette compétence-là. Bon, le processus d'acquisition va pouvoir se faire de différentes façons. Mais j'entrevois la possibilité de cours qui traitent directement ces compétences-là. Et ce serait évidemment des cours ou des formations qui seraient offertes à l'ensemble des personnes poursuivant des études de premier cycle dans les facultés de droit qui offrent une formation en common law. Bref, il y aura à partir de 2015 de la place dans le curriculum pour la jurilinguistique, parce que c'est par le biais de cette compétence-là qu'on pourrait introduire, qu'on pourrait ouvrir la porte à l'étude de la jurilinguistique. Alors, je pense que les jurilinguistes canadiens ont tout intérêt à saisir l'occasion s'ils veulent faire avancer leur discipline au Canada. C'est une occasion qui se présente et qui est fort intéressante, selon moi. Bon, il est vrai là, que pour cette exigence nationale-là ne s'appliquera pas aux facultés de droit qui offrent une formation en droit civil. Mais on peut très facilement imaginer qu'à partir du moment où on prend l'habitude au Canada d'offrir, d'accorder aux étudiants en droit des compétences linguistiques, ça va à court ou à moyen terme, j'ose croire, influencer aussi les facultés de droit civilistes. Alors, moi, ce que j'espère, en lançant ce message aujourd'hui à l'ensemble des personnes qui sont dans la salle, c'est que ces idées-là ne tomberont pas dans les oreilles de sourds, et que, au contraire, les gens iront de l'avant, et qui sait, peut-être que les idées mises de l'avant par Christopher Goddard trouveront un terrain fertile au Canada. Alors, c'est à suivre. Et là, je pense qu'on a un peu de temps, on a peut-être 10 minutes pour les questions. On va de l'avant avec les questions.
On a un peu plus de 10 minutes, on a 12 minutes plus ou moins, mais je pense que c'est peut-être utile de prendre les questions de deux en deux pour avoir agilisé un peu la chose et avoir donné aux gens l'opportunité de poser, de présenter des discussions qu'on peut peut-être continuer pendant la course santé. If there are any questions, depending on the number of questions, we might take them two at a time. We might take them individual. We have about 12 minutes.
What? Yes, I'd like to ask both of our speakers. Thank you very much for a very enlightening presentation. Professor Goddard, most of the scholars you mentioned in your presentation hail from Abo Akademi, I believe, in Finland, where one teaches Finnish law in Swedish. And they are confronted with problems of jury linguistics in their daily existence, not only as a separate function, but also in their daily exposition of the law, much like we are in the university.
Yes.
As a matter of fact, nothing resembles Finland more than Quebec. Mm-hmm. The balance and the language laws and the sign laws and all that. And the same thing goes, I believe, for Latvia, in that it is also a place in which language laws play a very large role. But these jurisdictions are quite limited in the Western world. And when you gave us the list of topics from the students were doing, they seem to be doing highly practical work that reflects the reality of two languages vying in one jurisdiction. There was very little, you know, la carte à crève or what bien du contrat or I don't know, this sort of work. So what I'm leading at is that, to me, in jury linguistics, there's a summa divisio between legal semiotics, which is something that's done throughout the Western world, and a form of comparative law. And you see in your program in Riga the two coming together. And is there a bit of research going on in your program in what I should call legal semiotics, which is something quite separate from the kind of practical aspect of jurisprudence?
No, we don't do legal semiotics, but I would love to. I've read a bit about it. It's basically about the signs and symbols and what have you, as I understand it. I've come across it. I would love to introduce legal semiotics as a topic.
But you don't have it. Most of your students do not come up with, the tropisme of the white canyon and this sort of stuff. They're more into translation problems.
Yes, they are. But it's a great idea. It had not occurred to me to have legal semiotics until you actually mentioned it, but it sounds a great idea. It would make it would liven up the program if we can find space for it. But I think we should try.
It's mentioned that legal linguistics suffers from multiple definitions. What would be your working definition, your preferred working definition of legal linguistics?
Yes, it's just very briefly, is how language is used in legal contexts. That's it. That simply. But it could be open to challenge and discussion. Bearing in mind, I don't claim to be the world's greatest academic. I'm very much a practical individual, but that's my definition. Could be challenged. Yes.
Barrister from the United Kingdom, I have a PhD in public law in France, and I'm a VCL in Quebec. Even here, until very recently, you use the word company for French, for Quebec company, corporation for a federal corporation, which then became société instead of coopération in French. I can understand how, I can vaguely see that the governments come together within the same language that they could make legislation and take a practical means of assuring that the same words mean the same thing. But I can't see the connection with different languages how it would work. I have a friend who is a legal translator and translates mainly for Europe. And I know he does English-French. And I know one of his greatest problems is the legal French in Switzerland is one thing, in Quebec it's another thing, mm-hmm. and in France it's a third thing.
Yes.
And how I practice a very practical legal practice, and I'm trying to see how what you say sounds wonderful, but are you suggesting a legal Esperanto, which we will all have to learn?
No. It's an excellent question, and this is a problem, especially as within Europe, a form of legal English seems to be developing, which is not at all connected with the United Kingdom.
Okay.
or any other English-speaking country. It's being developed by Germans and others, and all sorts of concepts we find in EU directives, which were not thought up by any English person. But on the kind of questions you mentioned, where you've got company or corporation, what this very often happens, especially with my practicing law firm clients, is out there in the field, as it were. And there, what we normally do is to say, well, there are no rights and wrongs. What you have to do is decide what is your in-house style and deal with it that way, rightly or wrongly. And that's the only answer I've found so far.
From a practical point of view, it's very difficult to learn several different legal languages, yes, and legal words.
Yes, it is. It is very difficult.
Okay, no. Here.
First of all, you present yourself as someone who is very eminently practical. Your British side.
Yes.
And you also indicated that you were interested in strategy. And so basically your paper seems to say that we have to position jurilinguistics within an educational context and within a professional context. So could you summarize in a few words what type of strategy you would actually put forward if you were to achieve this objective?
No, but... No, I couldn't, because I mentioned earlier on that it needs different brains than mine to think up the strategy and tactics. I'm very much the executive. I can function on the ground. I have no real idea how it might be done, other than to use a cooking comparison. Somebody needs to come along who's a different kind of chef from me to prepare the same meat and vegetables and cook them in a different way, rather than cooking them à l'anglaise. Cook them a française, and then they will be more digestible and more attractive. So, that's all I can suggest.
This is your gastronomic approach.
It is, but it's the same, because there was one very old Roman lawyer who said, the person who seeks to persuade must first please. I forget the name of the individual, but I came across that aphorism once, and so it has to be, whatever is presented has to be like music to the ears of the listeners. And I'm not too good at doing that. It needs other brains than mine, to be frank. But thank you for the question.
So we have about 4 minutes, so I'm going to take two questions now, please.
There's no comment and a question.
Okay.
Picking up on the question that you raised, which I think is a very good one and very important. I think in Europe, hopefully you'll agree with me, Christopher, on this. In Europe, you've got two very distinct things going on, because on the one hand, you have European Union law, and on the other hand, you have a comparative legislation looking at, for example, the law in Switzerland, looking at Canadian law, and comparing linguistically between the two things. But in the EU, you've got 23 linguistic versions of one allegedly uniform law. So I think that's two very different things there. And certainly when I've looked at translation theory in an effort to help me understand European Union law, I find that it wasn't as helpful as I thought, because translation theorists tend to be looking at things like the points that you raised, is how do you linguistically say the same thing in two languages, in two different legal languages, or two different legal cultures. And what they seem to focus on is, for example, a lawyer having a client in a different jurisdiction in a different language. So if you're trying to make something understandable in a different jurisdiction, in a different language. But I think largely what you were looking at, Christopher, was, or a large part of what you were looking at, was within the context of the EU. You're not, it's law in both of those linguistic versions. Mm-hmm. It's not a translation or an explanation of the law to make something more understandable in a different jurisdiction to somebody else. Mm-hmm. Not sure if I'm making myself clear.
Okay. Yes, let me take another question so that we can aggregate some. Yes.
Yes, I was a bit puzzled by the proposition that the comparative law would be as a sense of tune or as others suggested. And I was wondering if this is one of the European vision of comparative law, which is, I think,
Very good point. It may not be a European vision. It may be more a European hallucination. Because many Europeans are rather self-focused. So we tend to be a bit like this, thinking that we're the, as the Russians say, the pop zemli, is the belly button of the world. There are probably ideas coming out of Europe that are only actually in practice applicable within Europe. Very good point.
I am very envious and very jealous of your program. And during your presentation, you used the expression chances of survival.
Yes.
And then you mentioned also threat. Then you also mentioned this would be sufficient support that the program have.
Yes.
I don't mean pride, but this unique program of yours, if I can call it yours, I guess this is your work. To a large extent. How threatened is your program without the current support that you have? For me, it's very valuable, this kind of program. I wish long life to your program. But how threatened would you be without the current support that you have?
Well, I'm just paranoid, but I can see that we're apparently the only program of its kind, and it makes me a bit nervous. I'd like to see other similar programs. It doesn't matter that they're competitors. I believe in competition, but I'd like to see other programs out there operating, because that would make me feel a bit safer. When there's only us, I don't think our administration will close us down. They're really beginning to see that we actually have something to offer that is at the moment unique. And they have given, especially our director, who's a fabulous lady, she's really given, had to do a lot of financial thinking to keep us going last year, for example. This year is okay with the paying students coming in. But I just feel very nervous. That's all.
Yes,
I Well, in that note that I will interpret as hopeful, even if it has a bit of ambivalence, I would like you to join me in thanking our presenters, and we will proceed then to the coffee break.